Radio Grand Ciel, guten Tag, bonjour. Am Mikrofon Michel Giroux, à la technique Simon Martin.
Ich bin nicht hier wegen Mama, nicht hier wegen Papa und nicht wegen Onkel Uwe.
Willkommen auf unserer Sendung Die Deutschen oder Die Darländer. Ja, notre émission Die Deutschen change de nom. Elle devient Die Darländer. Warum? Pourquoi? Die Darländer, c'est quoi ce truc? Des, wie Deutschland. Des comme l'Allemagne, en allemand. C'est ce qu'on lit sur les plaques de voiture, le D. Et le A, le CH. Le A, c'est pour Austria, vous avez deviné, vous avez reconnu. L'Autriche, en latin. Et le CH? Le CH? Alors, quelle est la réponse? Eh bien, le CH, c'est pour la Confédération Suisse, helvétique. Cet acronyme désigne en fait les pays de l'ère germanophone où on parle allemand. Notre émission se porte donc sur la seule Allemagne. Je vous appelle Darländer. D-A-C-H-Länder, L-A-N-D-E-R. C'est le pluriel de Land, qui veut dire pays, région. Aujourd'hui, je vous emmène en Bavière, à München, Munich en français, dans la Fürstenstrasse au numéro 17. Vous allez entrer dans une librairie un peu particulière. Elle a une spécialité. Vous entrez et vous êtes accueilli par une femme à la chevelure rousse frisée qui encadre un beau visage régulier et harmonieux. Rachel Salamander. Quel beau nom, Rachel Salamander. C'est une femme au parcours impressionnant et qui vient de recevoir un prix éminent en août de cette année en Allemagne, et un prix mérité pour sa ténacité, sa créativité, son humanisme, son idéalisme mêlé de lucidité. Elle s'appelle donc Rachel Salamander. Elle a 72 ans. Je vous raconte brièvement sa vie. Sa mère avait réussi à fuir avec sa sœur du ghetto de Varsovie. Elles se sont retrouvées, ainsi, au fil de péripéties inconnues, au Turkménistan. C'est là que cette femme, la mère de Rachel, va rencontrer celui qu'elle va épouser, un ouvrier qui vient d'Allemagne, de Lemberg. En 1939, au moment du pacte germano-soviétique, cet ouvrier, décide d'émigrer du côté soviétique. On peut en déduire qu'il adhérait, comme beaucoup d'ouvriers à cette époque, au mouvement communiste, qui était interdit en Allemagne depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Les nazis les arrêtaient et les enfermaient dans des camps de travail. Sauf que, comme quelques-uns de ces communistes allemands, et peut-être même français, au lieu d'être bien accueilli en Union soviétique, il va être arrêté. Arrêté comme espion polonais et envoyé au goulag. Est-ce qu'il reste au goulag? Apparemment non. Il atterrit comment? Je ne sais pas. Mais il atterrit, fuite, transfert, au Turkménistan, où il rencontre celle qui va devenir sa femme et la mère de Rachel. À la libération, ils vont essayer de rejoindre la Palestine. C'est le rêve de beaucoup de rescapés à l'époque. Mais avant, ils veulent d'abord essayer de retrouver leur famille, les survivants de leur famille. D'abord en Pologne, puis en Allemagne. Ils ont un but, toujours la Palestine. Mais le destin va les fixer à München, Munich. Pourquoi? Les Américains, en fait, à la libération, ont transformé un camp allemand, près de Munich, en un camp de Displaced Persons, DP Lager, voilà le nom du camp. DP Lager, Displaced Persons Lager, le camp des personnes déplacées. Le vrai nom de ce camp, c'est Föhrenwald, du nom de la forêt voisine. Le camp de Föhrenwald. Il héberge les rescapés des camps qui veulent quitter l'Europe, aller en Palestine ou ailleurs, provisoirement. Problème, la mère de Rachel est malade et on leur refuse le visa. Le camp subsiste ainsi sous contrôle américain jusqu'en 1956-1959. Je vais émailler le récit qui va suivre de citations que j'ai lues dans l'article qui m'a fait découvrir cette femme remarquable, dans le journal Die Zeit, un grand quotidien allemand qu'on peut acheter à l'Esperluette par exemple. Il est accompagné d'une très belle photo de Rachel. Son regard vous transperce, mais sans violence. Elle est en face de vous, tout simplement. Le Zeit lui a consacré une pleine page. Une pleine page, grande comme une page du Monde, le journal Le Monde. Rachel naît en 1949. Elle grandit jusqu'à l'âge de 7 ans dans ce camp, Föhrenwald, où on parle yiddish, que les habitants considèrent comme un lieu de transit, ein Provisorium. Ils l'appellent d'ailleurs le Shtetl, ce mot hébraïque ou yiddish qui signifie le village. Et donc elle grandit dans la culture yiddish au milieu de ses rescapés. Elle dit « Nous étions dans le pays qui avait détruit les nôtres et nous ne pouvions pas en sortir. Wir waren im Depelaga, im Land, das unsere Leute umgebracht hat und kamen nicht raus. » Elle se souvient de l'atmosphère particulière du camp, étouffante sans doute. Elle dit « Chacun portait une part de mort en lui. Jeder trug ein Stück Tod in sich. Sa mère ne va pas survivre ici. Rachel a 5 ans quand sa mère meurt. Comment peut-on survivre dans un tel endroit ? » Elle nous explique « Nous, les enfants, étions pour les adultes un espoir, un chemin vers l'avenir. Wir waren für die Erwachsenen eine Hoffnung, der Weg in eine Zukunft. » Contrairement à ce que l'on entend souvent, les rescapés dans le camp ne se taisent pas, ils parlent. Ils parlent de ce qu'ils ont vécu dans les camps. Et elle entend tout ça, ces récits. Donc, elle a été confrontée à ces récits très très tôt. Elle entendait les rescapés parler donc des camps de concentration. Mais on n'en parlait pas avec les Allemands. D'ailleurs, on n'interrogeait pas les Allemands non plus. Deux mondes se côtoyaient. Elle dit « Das Schweigen war ohrenbetäubend. » Le silence était assourdissant. D'après ce que je viens de dire plus avant, il ne s'agit pas, c'est du moins ainsi que je l'interprète, du silence des Juifs rescapés entre eux, mais du silence qui isole le camp de Föhrenwald du monde qui revit autour d'eux. Ils y resteront jusqu'en 1956. Ils le quittent, avec quelques autres familles, pour vivre dans des appartements sociaux, qu'on appellera la Judenhaus, la maison des Juifs. 18 familles ensemble, qui se replient un peu sur eux. Pour Rachel, ce lieu fut un endroit sécurisant malgré tout, au milieu d'un monde hostile. Tous continuent de croire que ce n'est que provisoire. Mais ce provisoire va s'installer. Elle va à l'école. Elle n'a que peu de contact avec les autres élèves allemands ou étrangers. C'est l'époque de la grande immigration italienne et turque. Elle rentre un jour de l'école, elle a 14 ans. Avec un tel sentiment de solitude, d'être une étrangère, qu'elle craque. Elle se retrouve dans un état qu'elle décrit comme une façon de hurler intérieurement. Mais cette crise, elle va la surmonter. Elle ne va pas la conduire en psychiatrie, comme beaucoup d'autres, non. Lors de cette crise, elle décide que de tout ce qui est négatif, elle va se créer une vie positive. Et c'est ce qu'elle va réaliser. Je crois qu'on peut appeler cela de la résilience. Elle fait des études d'allemand. Étonnant, n'est-ce pas? Nous avions pris racine ici et devions commencer à expliquer où et ce que nous étions. Je devais comprendre ce pays. Étudiante, elle se trouve mêlée à la jeune génération allemande, celle qui commence à se rebeller contre le silence de leurs parents qui ont connu le nazisme. Cette génération qui veut qu'on discute des crimes nazis. L'époque de ce juge juif qui poursuit des criminels de guerre, ou peut-être même de Beate Klarsfeld. Ce sont des débats tard le soir jusqu'au petit matin. Avec mon nom, c'était clair, tout de suite, on sait avec qui j'étais. Elle avance seule, dans la lumière, au-devant des autres. Les autres sont dans l'ombre. Cette expérience de l'ombre et de la lumière, elle va la poursuivre toute sa vie. La lumière, l'ombre, le public sait qui elle est. Elle s'avance et ne sait jamais vraiment qui elle a en face d'elle. La photo du journal Die Zeit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, évoque sans doute cette façon d'aborder les autres, ce regard qui partage l'ombre et la lumière. Que va-t-elle faire après ses études? Devenir une universitaire? Le seul moyen de vivre dans le lieu de la catastrophe était que nous, juifs et non-juifs, mettions les histoires sur la table. Hier, an den Ort der Katastrophe zu leben, war das wir beide Juden und Nichtjuden die Geschichten auf den Tisch legten. Elle décida alors de créer un lieu où les juifs et les non-juifs puissent se rencontrer, pour que les Allemands puissent comprendre ce que le monde judaïque fut avant l'extermination, et comprendre aussi ce que signifie le judaïsme contemporain et sa culture en Allemagne. Et c'est ainsi, dans les années 1980, qu'on voit s'ouvrir à Munich, dans la Fürstenstraße, où je vous ai conduit tout à l'heure, une librairie judaïque. Cette librairie, elle l'appelle Literaturhandlung. Le mot littérature vous éclaire, mais Handlung, dit Handlung, c'est l'action. Vous comprenez bien qu'elle veut créer un endroit où on ne se contente pas de venir acheter des livres. Elle veut le débat, l'échange, que les gens bougent leurs lignes, changent de perspective, d'où le choix du mot Handlung. Mais à la place de quel mot? Die Buchhandlung. Die Buchhandlung, c'est le mot allemand pour la librairie. Elle a donc supprimé le mot Buch. Trop évident, mais aussi pour mettre en valeur le mot Handlung. D'ailleurs, dans sa librairie, on ne trouve pas que des livres. On trouve aussi tout ce dont on a besoin pour les rituels de l'année juive. Les bougies, les chandeliers, les tapis, les kippas pour adultes, pour enfants. Il y a 4 départements dans sa librairie. Histoire et tradition judaïque. Jüdische Geschichte und Tradition. Histoire contemporaine et biographie. Zeitgeschichte und Biographen. Belles lettres, belletristiques. Livres pour enfants et adolescents. Kinder und Jugendbücher. Et dans ce lieu, elle organise des lectures. Elle est une des premières dans les années 1980 à organiser ce qui s'est bien répandu depuis, sans avoir pour autant la force symbolique que sa librairie a encore, Die Handlung, l'action qui met en mouvement. Écoutons-la lors de la remise du prix Heinrich Heine en août. Je traduis ce qu'elle vient de nous dire. La question a toujours été, quelle forme voulons-nous donner ensemble à notre futur ? Et ça marche, sa librairie marche. On lui confie, en outre, en plus de sa librairie, des rubriques littéraires dans de grands journaux comme Die Zeit. Elle reçoit dans sa librairie des auteurs importants, des personnalités de la littérature, des historiens judaïques, Amos Oz, David Grossman, Maxime Biller, un critique littéraire, Marcel Reich-Ranicki, une vedette de la télévision, que les Allemands ont adoré ou non. Car c'était une personnalité un peu clivante pour employer un mot actuel, mais assez pratique. Une sorte de Bernard Pivot en plus mordant peut-être. Ils étaient amis. Le directeur du Zeit disait « Elle est un génie de l'amitié ». Elle dit d'elle-même « Ich habe vor nichts Angst. Das ist mein großes Kapital. Je n'ai peur de rien, c'est mon atout premier ». On comprend qu'après avoir vécu dans un camp, avoir entendu les récits de son père, des gens qui étaient dans le camp, on comprend que la peur n'est pas la même place dans sa vie que pour nous. Et qu'elle n'ait pas été impressionnée par quelqu'un comme Reich-Ranicki. Et elle n'a sans doute pas été impressionnée non plus par le président allemand der Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, qui a fait le discours, le Laudatio, lors de la remise du prix Heinrich Heine en août. Heinrich Heine était un grand poète allemand d'origine juive du début du XIXe. Ce prix honore quelqu'un qui a participé à la reconstruction de la vie intellectuelle juive après la Deuxième Guerre mondiale. Quelqu'un que Dan Diner, un historien, considère comme une figure culte de la culture de la République allemande. Eine Kult- und Kulturfigur der Bundesrepublik. Que fait-elle maintenant? Elle a 72 ans. Elle a trouvé une remplaçante. Mais ne vous inquiétez pas, vous devinez bien qu'elle est toujours active. Elle a créé des filiales. Je ne sais pas si c'est le mot qu'on emploie pour dans le monde des libraires. En fait, elle a créé une autre librairie judaïque à Berlin, au musée juif à Francfort, à Dachau, au camp de concentration, à Würzburg, à Fürth, dans des petites villes en fait. Elle observe ce qui se passe autour d'elle en Allemagne. Le retour de l'antisémitisme, du racisme. Elle a créé un endroit pour que les juifs et les non-juifs puissent discuter ensemble, se confronter. Maintenant, c'est au tour de la jeunesse de prendre le relais. Elle a trouvé une jeune fille pour lui succéder. Das Fundament ist da. Nun kann darauf weitergebaut werden. Les fondations sont là. Maintenant, on peut continuer à œuvrer dessus. Ça s'est passé à Munich, München. Ça se passe à Munich, München. Elle s'appelle Rachel Salamander ou Rael Salamander. Et Radio Grand Ciel lui rend hommage avec moi. Merci à vous, Madame Zalamanda, pour votre regard perçant qui nous invite à agir pour créer un espace de vie commune. À bientôt, au plaisir de vous retrouver grâce à Radio Grand Ciel et notamment à Simon, notre technicien préféré.
Ich bin nicht hier wegen Mama, nicht hier wegen Papa und nicht wegen Onkel Udo bin ich hier.